Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Jardin des mots. Bonjour Odile. Et
bonjour, pardon.
Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux personnages un peu atypiques, mais on sait tous que je les aime bien, donc ces personnages atypiques, qui sont Yves Bical, bonjour Yves.
Bonjour.
Et Christine Sansache, deux bras.
Bonjour.
Alors Yves et Christine travaillent aujourd'hui à Saint-Étienne-des-Orgues, mais je sais qu'ils viennent peut-être d'un pays lointain, on va dire ça comme ça. Ils viennent de Bruxelles ou de Bruxelles, tous les deux?
On a travaillé
à Bruxelles. Alors, j'ai la première fois que j'ai découvert ces êtres-là, j'ai cru qu'il y avait une erreur dans l'adresse. Parce que franchement, habiter au coin de la rue de l'Enfer, c'est quand même assez étonnant, un peu, voilà. Et puis, en leur demandant qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, quelle était la rencontre, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu étonnant. Parce que, pourquoi cette rencontre entre deux êtres aussi différents? Savez-vous ce qu'on répond? C'est une rencontre qui est uniquement une relation d'affaires. Et pourquoi? Pour faire du fric. Non, mais franchement. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Yves, qui diable êtes-vous au coin de cette rue de l'enfer?
Comment? J'ai pas compris.
Qui donc êtes-vous au coin de la rue de l'enfer?
Qui donc sommes-nous au coin de la rue de l'enfer?
Une vie avant la vie?
Ah, une vie avant la vie, c'est le titre d'un bouquin que j'ai fait avec Robert Brandy. En fait, nous, on vient de Bruxelles, on s'est connus à Bruxelles. Moi, je suis parti. Je suis parti en Belgique en 68 pour travailler avec des amis au théâtre. Donc, j'ai fait toute ma carrière, 40 ans à Bruxelles. Et Christine vivait là, elle parlera après. Mais
elle aura le droit de parler.
Elle aura le droit de parler. Elle aura le droit, oui. Non, elle aura le droit. Écoute, je commence parce que tu as dit Yves. Donc alors, à propos de rencontre, il se trouve qu'un jour, c'était un mois de juin.
Oh, ne vous disputez pas, ne vous battez pas. Nous sommes dans un studio.
Il faisait très beau et avec un ami, nous répétions nos textes dans la cour du théâtre. Et quand la porte s'est ouverte, on avait entré une fille comme ça qui est entrée, qui est montée vers le bureau de la directrice. On l'a regardée tous les deux et j'ai dit à mon ami, celle-là, si elle revient, je suis foutu. Bon. Ah. Et c'était elle, toi.
Et
elle est revenue parce qu'elle s'est fait engager par ma directrice. Donc,
c'était écrit.
Voilà.
C'était écrit. C'était pas encore l'enfer, mais c'était peut-être
non,
bien
mais ça fait quand même 50 ans de malheur après, tu vois.
Alors, Christine, voilà. Quelle réaction à cette présentation?
Je n'avais pas du tout envie qu'il raconte ce genre de choses.
Parce que, alors, si j'ai bien compris, il vient du monde du théâtre. Et vous?
Et moi, pas. Non. Moi, j'ai fait d'autres études. J'ai fait des choses très différentes. J'ai fait de la kinésithérapie et en même temps l'histoire de l'art. Donc, je fais dans deux domaines différents. Et puis, j'ai abandonné la kinésithérapie au profit de l'histoire de l'art.
Très vite.
Très vite, oui, on va le dire comme ça. Et quand nous nous sommes rencontrés, c'est au moment où j'avais envie, effectivement, de créer une galerie d'art. Donc, on a créé cette galerie ensemble en 1975. Et elle a résisté, enfin, on l'a tenue jusqu'en
96,
voilà. Et ensuite, on a eu l'occasion d'avoir on a trouvé une seule fois des budgets de l'Europe pour monter tout un projet avec plusieurs critiques d'art qui devenaient responsables de certaines expositions. Et on a fait tout un projet pendant 2 ans. Donc, à partir de là, on s'est dit, mais au fond, c'est pas mal de travailler comme ça plutôt que la galerie où on a une obligation d'exposition chaque mois ou tous les 2 mois. Et là, en fait, on monte des projets et puis on les réalise. Voilà.
Alors, avant d'aller un petit peu plus loin sur les projets, moi, je voudrais que nous écoutions le premier choix musical que vous avez fait.
Ah.
Et vous nous direz après pourquoi, peut-être.
Thank you.
atardecer me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré.
Alors, c'est Christine ou Yves qui a choisi ce morceau-là?
C'est Christine.
C'est la dame d'à côté. Alors pourquoi, Christine? Quel est ce...
Ah, moi, je savais la Vargas. La première fois que je l'ai entendue, c'était une voix qui allait tellement loin, qui est tellement au plus profond de soi, que vraiment, je suis amoureuse de cette voix. Voilà.
J'entends parler de poésie quand vous parlez comme ça, parce que finalement, la voix, c'est ça aussi, cet amour que vous avez là et que vous développez autour de la poésie quand même, Yves.
Oui, tout à fait.
Alors, oui, elle nous a flashé, là, on a un petit peu perdu notre
surprenant,
notre...
Hein.
Non, ça surprend, on se prend pour des stars.
Absolument.
C'est pas mal. Donc, la poésie, au départ, le premier livre que vous avez travaillé ensemble, probablement, quel était-il?
Le premier dans cette collection littéraire.
C'est-à-dire, quelle collection?
Au coin de la rue de l'Enfer.
D'accord.
Donc, Au coin de la rue de l'Enfer, c'est une double collection. D'une part littéraire, ce sont des petits livres, le mot littéraire indique bien, pas forcément de la poésie, mais proche. Et à chaque fois, nous demandons à un artiste de concevoir le dessin de la couverture. Et il y a un certain nombre d'exemplaires imprimés sur un autre papier qui sont fournis à l'artiste pour qu'il les repeigne, qui deviennent des livres d'artistes. Ça fait que c'est une double collection, si vous voulez. En même temps, il y a la collection littéraire, et puis il y a une collection de livres d'artistes qui sont tous des objets uniques, repeints, retravaillés par l'artiste, mis dans un coffret, enfin, le principe du livre d'artiste.
Bien sûr, le principe livre d'artiste. Voilà. Alors, est-ce que le livre est né des expositions, ou est-ce que le désir des livres était préexistant? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une exposition qui vous a particulièrement... sensibilisé, touché, que vous en êtes arrivé au livre, ou est-ce que le projet central, c'était le livre, et le livre différent, le livre singulier?
Non, au départ, quand on était encore en Belgique, l'association, elle avait été créée avec quelques amis pour éditer... Enfin, un petit rappel historique. Hein.
Bon, voilà, d'accord, ça c'est bon. Très très bien.
La Belgique est un pays composé de plusieurs morceaux, d'accord. Linguistiquement et culturellement très éloignés les uns des autres, mais proches en même temps par certains côtés. Il se trouve qu'au niveau international, la Belgique néerlandophone fait un effort de travail et un effort financier pour faire sortir ses artistes de ce petit pays, que la Belgique francophone ne fait pas du tout le même effort. Et que les trois ou quatre artistes belges francophones qui sont actuellement connus internationalement, ils ont été connus parce que ce sont les Flamands qui les ont fait sortir. Ou alors les artistes historiques qui sont allés travailler à Paris. Bon, Leschinski, il est parti à Paris, évidemment, il est devenu un artiste français à Paris, comme Picasso est devenu un artiste français. Alors, avec les artistes qui ont travaillé, on a eu l'envie de commencer par une collection de livres qui permettrait de leur donner un outil de travail qui serait... pérenne, au moins un certain nombre d'années. Donc on a conçu une collection de livres qui s'appelait la collection d'entretiens et d'images, mm-hmm. qui était sur des artistes belges francophones pour pouvoir les faire sortir du pays. C'est la première collection qu'on a faite. Donc ça, c'est venu des expositions et du travail avec les artistes. Bon, là-dedans, évidemment, on a rencontré forcément des écrivains. En plus, moi, je travaillais dans un théâtre d'écrivains, donc le rapport. Et quand nous sommes venus en Provence, on a eu l'idée d'une collection littéraire pour laquelle on a fait appel aux amis. Et en restant sur l'idée de la double collection, donc comme je disais avant, littéraire et livre d'artiste.
D'accord. Alors, lorsque vous étiez en Belgique, si j'ai bien compris, vous travailliez encore au théâtre ?
Oui, bien sûr.
C'est presque vrai.
Moi, j'ai arrêté le théâtre en 2009.
En 2009. Et vous avez dit un théâtre littéraire. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par théâtre littéraire ?
En fait, c'était en Europe, il y a 50-60 ans, la première troupe en Europe occidentale spécialisée dans le spectacle de littérature et pas dans le spectacle de pièces de théâtre. C'est-à-dire des spectacles sans personnages, sans psychologie, sans enfin, tout le mm-hmm. truc du théâtre, mais uniquement basé sur une lecture de l'architecture du texte littéraire et essentiellement de la poésie.
Et c'était Monique Dorcel qui...
Monique Dorcel qui dirigeait ce théâtre avec qui j'ai travaillé 40 ans.
D'accord. Bon, ben voilà, on en apprend tous les jours.
Oui, hein, tout à fait.
Il
n'y
a pas de secret qui reste très longtemps. Hein. On est dans la beauté, dans les choses.
Dans le secret public.
Dans le secret public, tout à fait. Donc, une collection. Moi, j'ai en main un très grand bouquin et vous avez des tout petits. Donc, je pense que...
Le grand, il est hors collection.
Toc, le grand, il est hors collection. Il y a marqué Argot au coin de la rue de l'Enfer.
Absolument.
Quand même. Sauf qu'il est coédité, si j'ai bien compris, avec le Muséum départemental des Hautes-Alpes.
Oui.
Alors, on va faire une petite parenthèse. C'est un très beau livre qui s'appelle Album, d'ailleurs, qui est avec des photos de Marie-Jo et des textes de Michel Butor. Vous m'en dites quelques mots parce que je suis un peu tombée amoureuse de ce bouquin, moi.
En fait, comme Michel Butor est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, je dois même dire qu'il voyage encore beaucoup, sauf que maintenant, bon, il faut aller le chercher et le ramener, mais à 90 ans, il est toujours sur les routes par Mons et par Vaud. Et quand les voyages, des voyages de type international, en fait, Marie-Jo faisait des photos, elle était photographe. Et puis un jour, ils ont eu l'idée de mettre ensemble certaines des photos avec des textes de Michel. Donc, certaines photos de Marie-Jo, pour lesquelles Michel a écrit une sorte de commentaire ou une situation historique de l'image ou une analyse de l'image. Et puis, avec ça, ils ont fait des œuvres à quatre mains. Il y en a 250 quelques, où sur la même feuille de papier est fixée la photo et le commentaire de Michel.
Donc, très exactement, la maquette du livre, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire, tout à fait, exactement ça.
On sait très bien que nous sommes à la radio, malgré tout ce que nous avons dit tout à l'heure, et malgré les flashs qui crépitent de droite et de gauche. Mais la mise en page est remarquable, je dirais.
Et la mise en page, c'est exactement les œuvres que nous avons montrées au musée de Gap. Donc, si vous, l'exposition, il y avait 55 photos avec le texte, qui ont été mises dans une grande salle du musée. Et c'est exactement... On a repris les œuvres.
Alors, pour nos auditeurs, hein, c'est un grand livre-album qui me fait un petit peu penser à un carnet de voyage, hein, justement.
Oui, tout à fait.
Pas tout à fait dans le sens, mais bon. Oui, oui. Et la photo prend effectivement la majeure partie de l'espace. Et il y a l'écriture de Michel qu'on ne présente plus, hein, qui est cette écriture assez ramassée. Alors moi, j'ai toujours trouvé que la complicité entre la photo et le texte, sur les photos, ce qui marque, c'est l'espace. Oui. Et dans le texte, c'est exactement l'opposé. Enfin, c'est ce côté très, très ramassé. Donc, c'est un album hors collection pour lequel il existe un tirage à part qui est sous plexi.
Il y a un tirage à part, un tirage de tête, qui est dans un étui plexi. et qui contient alors un grand collage double page fait par Michel Butor spécialement pour la publication du livre. Il a fait 25 collages, des collages qui reprennent entre autres son visage et celui de son épouse. Voilà. Et ici dans le livre, je dois dire qu'on a fait un grand album parce que certaines de ces images avaient déjà été, peut-être pas celle-là, enfin, publiées dans des livres, mais on mettait la photo sur une page, puis sur une autre page, le texte de Butor en typo. Oui, bon, ça, c'était pas bien. Donc nous, on a voulu reproduire les pages, quasiment, honnêtement, c'est quasiment la dimension des œuvres.
L'échelle.
Bon, c'est peut-être un petit pourcentage de moins. Ce qu'on a fait, on a enlevé le blanc tout autour, parce que sinon on avait. Et là, on est quand même avec un livre qui fait 30 cm sur 40.
Quoi. Bah oui, tout à fait.
Ce qui est grand.
C'est donc un contraste saisissant, dirais-je, avec les petits livres que vous manipulez. Et il y a plus petit, sauf erreur de ma part.
Il y a plus petit, parce que. Une collection que nous avons faite en Belgique. Qui était là, non pas lié à la littérature, mais aux artistes, ça s'appelait la collection Petit Plaisir. Et le slogan de la collection Petit Plaisir, c'était petit format, petit tirage, petit prix.
Donc finalement, vous n'êtes pas là pour le fric, vous avez raconté des bêtises.
Mais c'était une collection, dans le fond, nous demandions, enfin j'ai dit au passé, parce que depuis qu'on est dans le sud, on a refait un ou deux. On la continuera, mais pour l'instant, c'est. En fait, on demande à un artiste de fournir des dessins en noir et blanc, éventuellement du texte s'il a envie, avec des contraintes. Ça fait 16 pages. Il y a une couverture en trois volets autour. Et à l'intérieur de la contrainte et le format, il fait ce qu'il veut. Et une fois que c'est imprimé, on lui redonne et il doit repeindre. Ce qui fait que chaque exemplaire de la collection Petit Plaisir est un original. En fait, voilà.
Il choisit son papier, il choisit sur le papier. Il veut faire des Leporello ou des cartes postales. Enfin, c'est vraiment un original.
Donc, on en a plusieurs qui ont fait des Leporello. Mmh. On en a au moins deux, je crois, qui ont fait ça sous forme de cartes, encartées.
Et d'autres
sous forme de petits livres brochés, agrafés ou. Christine était la graffeuse.
Non, on n'a jamais agrafé. On a cousu.
On a cousu. Non, c'est très différent.
Je dis des bêtises.
On a cousu. C'est-à-dire qu'avec une planchette et des petits clous, on faisait les trous. Moi, je faisais les trous et elle passait la ficelle dedans.
Eh bien, dis donc, quelle activité.
Quelle activité.
On écoute un peu de musique, Odile. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le même qui ait choisi cette musique-là. Qui donc a choisi cette musique-là?
Non, vas-y.
Oh, non, c'est extraordinaire de les voir, cette complicité qu'il y a et qu'on retrouve dans votre travail. Hein. Mais ça m'amuse beaucoup. Je suis très, très heureuse de vous avoir tous les deux là face à un micro. Alors, qui a choisi cette musique? Cette voix, parce que c'est pas...
C'est Christine, c'est...
Mais c'est encore moi, mais c'est encore moi, mais je vais...
C'est simplement...
Gorski.
Comment ?
C'était Gorski.
C'est un disque que j'ai écouté, réécouté pendant des jours en entier. C'est vraiment une musique qui me... Enfin, je ne sais pas comment dire.
Mais lorsque l'on entend vos choix musicaux, enfin pour le moment, hein, on n'est pas du tout étonné que vous travailliez autour de la poésie, autour du mot, etc. Et d'ailleurs, en complicité avec ce que nous avons écouté, moi, j'aimerais beaucoup, Yves, que vous nous lisiez quelque chose. On va faire une balance avec la voix de M. Yves Bical, présentement.
Alors,
sur nos ondes.
Au choix.
Mais c'est vous qui choisissez, maître.
Ah non, non, maîtresse, il y a des...
Alors, on va dire quelques jours en 2013.
Quelques jours en 2013. Julien Blaine. C'est hard.
Ah, eh bien, je suis désolée.
Ah. Non, non.
Mais c'est vous qui avez apporté les livres, c'est pas moi d'ailleurs.
Oui. Bon, ben, Julien Blaine, je dis un mot quand même.
Bien sûr.
C'est un poète marseillais qui a 72 ans maintenant. C'était le maître de la performance en France vocale. Et moi, je le connais depuis 50 ans. Sous son nom de poète, Julien Blaine, la plupart des auditeurs le connaissent sous un autre nom, Christian Poitevin, parce qu'il a été pendant des années adjoint à la culture à la mairie de Marseille. Donc il avait une vie publique, politique et culturelle, et puis il avait une vie d'écrivain tout à fait international à côté. Alors, là, je vous lis un passage du livre qu'on a publié qui s'appelait « Quelques jours en 2013 ». Il y a 9 semaines, j'ai bien dit 9 semaines, je mangeais des asperges vertes de Loris, délicieuses et résistantes. Après les avoir roulées dans de l'huile d'olive de vin tabrin, à peine salée et légèrement poivrée, en découpant bien leurs pointes entre les dents, en tranchant leur tête entre les dents, celle du haut et celle du bas. Et en tirant sur l'une d'entre elles à pleines dents, mon petit bridge à 3 dents s'est fait la malle dans l'estomac. Puis, dans l'intestin grêle, ileum. Puis, dans le gros intestin, colon transverse, colon ascendant, colon descendant, avant d'arriver dans le rectum et émerger de l'anus. Du moins, c'était mon souhait. Alors, durant 3 semaines, j'ai bien dit 3 semaines, j'ai exploré ma merde avec une blanche fourchette de camping après avoir chié sur un sol nettoyé. La quatrième semaine, j'ai renoncé à trier dans mon caca et j'ai chié comme tout un chacun, aux chiottes, attendant de me faire explorer par une sonde mon système digestif à la recherche de mon bridge à 3 dents. Puis je suis allé à Paris. Galerie Esser, dans la cour Bel Air, au 56 rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, dans le 12e arrondissement, vernissage le 21 juin, auto-dafé, auto-défait, et où étais-tu, Arthur? Ben merde, alors tu n'étais pas là. Et au matin du 22, je fiais tranquille, assis sur ma cuvette des WC au dernier étage du 20 de la rue de Marquet, dans le 10e arrondissement de Paris. Première giclée, satisfaisante et libératrice. Et la deuxième, ding ! C'était lui. Mon bridge à 3 dents. Brossé, lavé, trempé 3 nuits et 2 jours dans l'alcool blanc de Provence, la vraie blanche. Il a retrouvé ma bouche en attendant un rendez-vous avec Philippe, mon dentiste de l'air des bons fils, qui va bien le sceller. Alors j'ai compris. émotion, trouble, émoi, saisissement, etc. J'ai au-dessus de ma tête le grand ressort en forme d'entonnoir des dessinateurs de BD quand le héros est au bord de l'évanouissement. J'ai compris la dernière lettre d'Arthur Rimbaud, Hôpital de la Conception, Marseille, le 9 novembre 1891, au directeur des messageries maritimes. Lettre dictée à Isabelle Rimbaud. Marseille, 9 novembre 1891. Un lot, une dent seule. Un lot, deux dents. Un lot, trois dents. Un lot, quatre dents. Un lot, deux dents. Monsieur le directeur, je viens vous demander si je n'ai rien laissé à votre compte. Je désire changer aujourd'hui de ce service-ci, dont je ne connais même pas le nom, mais en tout cas, que ce soit le service d'Affinard. Tous ces services sont là partout, et moi, impotent, malheureux, je ne peux rien trouver. Le premier chien dans la rue vous dira cela. Envoyez-moi donc le prix des services d'Affinard à Suez. Je suis complètement paralysé, donc je désire me trouver de bonne heure à bord. Dites-moi, à quelle heure je dois être transporté à bord, Arthur Rimbaud. J'ai touché le gros lot. Le cimetière Saint-Pierre de Marseille a gardé sa jambe et l'hôpital de la Conception, son bridge, a un, deux, trois ou quatre dents. On a oublié de lui restituer ses prothèses dentaires, qu'on lui rende ses bridges et ses dents. Être un sous-dieu ou être sous-dieu, ou être une merde ou une sous-merde, ce qui revient au même, être un humain en quelque sorte.
Eh bien, voilà.
C'était Julien Blaine.
C'était Julien Blaine, donc avec un choix qui vous a fait sourire et qui nous a permis, après la leçon d'anatomie quand même,
oui,
de faire un petit clin d'œil à Rimbaud.
Oui, tout à fait.
Bon, oui.
Je pense quand même, si vous pouvez me donner une explication, que la lettre de Rimbaud, une dent, deux dents, trois dents, à mon avis, c'était plutôt des défenses d'éléphants ou des... c'était du commerce.
C'était du commerce, tout à fait.
Et que Blaine ramène ça à son bridge.
Tout à fait. Ouais. Alors, dans les choix des auteurs avec lesquels vous travaillez, si j'ai bien compris, lorsque vous vous êtes installé en 2007-2008, je ne sais plus, en Haute-Provence, donc
oui,
à Saint-Étienne.
2007,
dans ces années-là. Vous avez travaillé avec des auteurs, des poètes que vous connaissiez et que,
oui,
quelque part, vous avez, j'allais dire, ramené dans vos,
oui,
dans,
oui,
vos bagages.
Oui, 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 oui.
Ah, oui.
Et par la suite, vous avez continué à travailler avec eux. Vous avez fait des découvertes par ailleurs. Comment a évolué cette petite rue de l'enfer?
Ben là, j'ai la liste sous les yeux. On a commencé avec Eric Clémens. Il se trouve que j'avais vu... Quand j'allais encore à Bruxelles, Clémens au théâtre qui avait lu quelque chose qui m'avait intéressé. Et quand on a décidé de faire l'édition comme ça, je lui ai demandé, donc on l'a fait. On l'a fait, ça s'appelle Mythe le rythme, c'est le premier qu'on a fait. Et puis, après, on a fait un livre de Sorante, qui est un écrivain luxembourgeois qu'on connaissait, parce que dans un gros livre qu'on avait édité sur l'artiste Robert Brandy, il avait mis un texte dedans. Puis après, on a fait Bernard Noël,
oui,
qui est un ami de 50
bien
ans.
Sûr, bien sûr.
Et puis Butor, qu'on ne connaissait pas, on l'a connu à ce moment-là. Mm. Butor, je crois que c'est Yule qui nous l'a fait connaître, Butor. Puis alors après, ça s'enchaîne. Quoi. À partir du moment où on fait Bernard Noël, à l'époque où on a fait Bernard Noël, forcément, ça nous amène à connaître Edith Azam, puisqu'ils étaient ensemble à ce moment-là. Et puis, alors après, on a choisi Jean Rista. Parents.
Oui, mais Jean Rista, on l'a choisi parce qu'on a monté aussi tout un colloque autour de Jean Rista.
Alors,
C'est comme ça qu'on en est arrivé.
On va profiter de cette intervention-là pour zapper un petit peu. Donc, juste pour finir sur le livre papier, hein,
oui.
Il y a donc plusieurs collections. Vous avez les petits plaisirs. La collection hors collection, il n'y en a qu'un pour le moment.
Non, il y en a d'autres, mais ce n'est pas les mêmes collections.
C'est pas les mêmes collections. Et puis, donc, cela.
Au coin de la rue de l'Enfer, oui. Donc, moi, je parlais sur Au coin de la rue de l'Enfer, qui est la collection qu'on a fait spécifiquement depuis qu'on est en Provence. Alors, ce qui est vrai, ce que disait Christine, c'est que comme on a organisé les rencontres littéraires en Haute-Provence, on a choisi de travailler la première année avec Bernard Noël, la deuxième avec Butor, la troisième autour de Rista. Donc, à chaque fois, on a édité un petit livre d'eux.
Qui vient là. Voilà. Alors, on fait ce petit bond vers les rencontres, justement.
Oui.
Donc, qui sont nées naturellement, qui sont nées à une réflexion, qui sont nées après... comment sont nées ces rencontres en Haute-Provence?
Alors, ça s'est fait en même temps, les rencontres et une exposition. C'était pas rien que les rencontres. On a fait la première fois, on a demandé à faire une exposition autour de Bernard Noël. Donc, ils étaient en hommage à Bernard.
Et c'est vous, Christine, qui êtes commissaire des expositions.
Oui, voilà.
D'accord.
Et donc, on a fait hommage à Bernard Noël. Et donc, on a demandé à Bernard les artistes avec lesquels il avait... les artistes desquels il était proche. Bon, là-dedans, on a fait notre choix personnel et puis on a monté l'exposition. Et en même temps, on faisait une rencontre sur une journée où on faisait venir un certain nombre d'écrivains qui discutaient, qui parlaient du travail de Bernard. Donc ça s'est fait comme ça. On l'a fait pendant 3 ans de cette manière. Donc la suivante, c'était
Butor
et puis la suivante, Rista. Et puis, c'est vrai que Yves m'en a un petit peu voulu, mais ça, pour moi, c'était très lourd, en fait, de monter l'exposition et la rencontre en même temps, puisqu'on le faisait le lendemain du vernissage, parce qu'on avait tout le monde sur place. Et donc, j'ai proposé, et puis on a fait comme ça, d'étaler les rencontres sur plusieurs soirées. Donc maintenant, c'est ce qu'on fait. On en fait une en mois de juin, en juillet, jusqu'à octobre.
Et ces rencontres ont lieu où alors?
Alors, la première fois, elles se faisaient... Donc les 3 premières années, on a pu les faire dans les jardins des Cordeliers, à Forcalquier, je ne sais pas bien. Maintenant, on les fait dans la communauté... La communauté de communes. Et donc, c'est des particuliers qui ouvrent leur maison. Et puis, chez nous, bien sûr, au coin de la rue de l'Enfer. Et voilà, donc on se répartit. Alors, les premières années, on le faisait aussi au centre Bojnev, puisqu'il y avait des expositions. Donc, au cœur de l'exposition, on faisait nos rencontres également. Donc voilà, on répartit un petit peu dans différents lieux, mais autour de Forcalquier.
D'accord.
En fait, au départ, lorsque nous sommes arrivés, nous avions l'intention de trouver quelque part un lieu où on pourrait continuer à travailler. En fonction du lieu trouvé, on se disait, bon, on fera des expositions, on fera de l'édition, on fera peut-être même du spectacle, on verra bien en fonction du lieu qu'on trouve. Et puis on a trouvé donc cette maison à Saint-Étienne-les-Orgues. En 2004. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une région où il y avait eu une énorme activité autour du livre, avec l'installation, il y a X années, très longtemps, de Robert Morel et tous les éditeurs, et qu'il y avait beaucoup d'activités autour du livre d'artistes. Bon. Puis nous avons rencontré quelqu'un dans les instances départementales qui nous a dit... Oh, puisque vous connaissez, j'ai la phrase exacte, si vous connaissez Viala, je voudrais avoir une exposition Viala dans le département. Et nous, on a dit, écoutez, non, nous, on arrive dans un département où personne ne nous connaît, en milieu rural ou semi-rural, on ne va pas arriver comme ça avec en amenant ex cathedra une exposition de Viala, il faut faire autre chose. Donc nous sommes partis dans cette idée qu'il fallait travailler en rapport avec le livre. Ce qui fait que la première exposition qu'on a faite, on l'a faite en collaboration avec Salagon. C'était des installations végétales de Bob Verscuren. Mmh. Donc, deuxième chose, nous nous sommes dit, il faut travailler dans ce pays, il faut travailler en collaboration.
Et bien sûr, voilà. Bien sûr.
Après, l'année suivante, on a eu envie de monter une exposition pour les 70 ans de Jean-Pierre Verheyen, grand poète belge. Et puis, Jean-Pierre Verheghen, évidemment, chez nous, c'était un peu petit pour faire, donc nous sommes allés à Fort-Calquier. Et Fort-Calquier, la mairie nous a accueillis et nous a donné le Centre Bogenef pour faire une exposition.
Ah, c'est comme ça qu'est né le partenariat avec le Centre Bogenef. Voilà. D'accord.
Dans ce système. Alors après, l'année suivante, on a refait une exposition avec l'inverse. Un artiste, Robert Brandy, et tous les écrivains qui avaient collaboré avec lui. Mais c'était moins intéressant comme construction d'exposition. Et puis l'année d'après, là, on a eu cette idée de pérenniser la chose annuellement. On a fait les rencontres littéraires en Haute-Provence avec donc, Bernard Noël, Butor, Rista, etc. Quoi, voilà.
D'accord.
Vous voyez, ça s'est fait comme ça, progressivement.
Ça s'est fait comme ça. Quoi. Et là, alors, je vais peut-être dire une grosse, grosse bêtise.
Peut-être, mais, peut-être, on ne sait
pas. Tout, pourquoi
on
pas.
On peut, hein. C'est autorisé.
L'année dernière, Laure L'Olive. Cette année, Les Jarres. Donc là, vous rentrez.
Ah non, là, c'est autre chose.
Voilà.
Là, c'est une collaboration avec le musée de l'Olivier. C'est Olivier Bosson qui m'a proposé, on va le dire comme ça, oui, de monter des expositions d'art contemporain au musée de l'Olivier. Donc, qui est un musée...
D'accord, donc il n'y a pas de lien, il y a un saut, là. C'est une...
Voilà, ça et à partir de là... Oui, voilà. Donc, et Or l'Olive, c'était l'année dernière. Enfin, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait les expositions là-bas. Et cette année, c'est une exposition qui va commencer bientôt sur la jarre. J'ai proposé aux artistes de travailler à partir de la jarre sur un rêve qui m'était resté, enfin, un souvenir qui m'est resté d'un film que j'avais vu il y a certainement 35 ans et qui m'avait émerveillée. C'était une exposition qui avait eu lieu au musée de Villeneuve-d'Ascq. Deux céramistes avaient été en exposition là-bas. Et il y a eu un film qui s'est fait. Et le réalisateur du film a eu une idée que j'ai trouvée magnifique. Il a mis un des deux céramistes sur son tour. Donc il lançait son tour. Il le lançait et puis il prenait une boule de terre, mais qu'il n'avait pas. C'était la forme de la boule de terre qu'il travaillait, qu'il creusait. Et puis il montait un pot. Il montait le pot sans
terre.
Sans terre.
Donc on voyait
et cette image, je la vois encore, l'image je vois la forme qui se crée, je la voyais là, qui devait être certainement très différente pour l'un et l'autre, mais c'est une image qui m'est restée. Et comme au musée, il y a beaucoup de jarres, puisque c'est le mode de transport et de conservation de l'huile. Oui. Voilà, j'ai pensé faire ça. Et donc, il y a 5 artistes qui ont relevé le défi et puis qui font... Alors, avec des matériaux divers. Il y en a une qui travaille les plumes, l'autre qui travaille les fils de fer et le feutre. L'autre, elle travaille le papier qu'elle file. Il y en a une qui travaille l'ardoise. Et puis, une autre, la cinquième... Ah oui, elle travaille dans un tout autre domaine. Elle travaille sur la problématique de l'enfouissement des déchets nucléaires. Et au fond, tout son problème, c'est le contenant, c'est la manière de protéger les bidons, de protéger les fameux produits. Mmh. Et donc, elle est partie sur le contenant.
Voilà. D'accord.
Ça, bon, c'est, voilà.
Alors ça, c'est un ça, partenariat c'est avec le musée de l'Olivier.
De l'Olivier, voilà.
Le musée d'accord. de l'Olivier, pardon. Et l'autre partenariat alors, qui a l'air d'être fort dans votre activité, c'est avec le Muséum d'art contemporain de Gap.
Aussi, voilà. Où là, effectivement, en ce moment, d'ailleurs, il y a une exposition, une grande exposition de Julien Blaine, en ce moment, qui va jusqu'en octobre, je pense. Voilà, oui.
D'accord, donc vous êtes des artistes heureux d'être en Haute-Provence finalement.
Absolument.
Est-ce que vous regrettez
absolument,
la vie
absolument.
Normalement, non, en fait, on avait envie de ça. Enfin, non, vas-y, tu veux.
Oui. Non, on a beaucoup cherché dans le Gard quand on a voulu revenir, mm-hmm. puisque le Gard c'était la région où il y avait la maison des parents de Christine, la région de famille. Mais c'était impossible en 2004. Dans le Gard, ils étaient fous. L'unité monétaire était le million d'euros pour la moindre petite baraque. Donc c'était très difficile. Et puis après coup, on est très content d'être venu ici parce qu'on s'est rendu compte que dans le Gard, on n'aurait pas pu travailler parce qu'il y a Nîmes, il y a Montpellier, il y a des musées, il y a des activités. Qu'arrivant ici où il y a énormément d'activités culturelles amateurs locales, mais le pays est pauvre, il n'y a pas beaucoup d'habitants, les cultureux sont peu nombreux. Donc finalement, il y a un espace dans lequel on peut développer un travail. Donc on est très bien ici.
Bon, donc vous ne repartez pas tout de suite.
Mais non, non, non.
Et alors, et les chocolats?
On reste encore 15 jours.
Mais si, on y va la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on y va en camionnette. Donc, on peut ramener des grandes boîtes de chocolat.
Voilà, des grandes boîtes de chocolat. On écoute un peu de musique. Alors, un petit point lecture. Yves, oui. Qu'est-ce que vous allez nous lire?
Eh bien, l'avant-dernier livre que nous avons sorti, là, c'est le livre de Jacques Socher. Jacques Socher, c'est un philosophe et poète belge, qui est un professeur émérite à l'Université de Bruxelles, qui a fait un très, très beau livre, très drôle, mais malheureusement, je ne l'ai pas ici, on n'a pas d'idée, qui s'appelait « Le professeur de philosophie ». Je suis le pro, le fi, le faux, le filolo, le... C'était un George. Ici, j'ai choisi autre chose. Une sorte de poème d'amour, on dira, qui s'appelle « Nous deux ». Tu voudrais l'inviter. Elle est à Montréal. Elle est à Palerme. Elle est à Cadix. Elle est toujours ailleurs. Comment faire pour la rejoindre ? Pour transporter avec toi l'invitation au voyage. Elle est dans le train, elle est dans l'avion, elle est en bateau, elle te mène en bateau. Elle est au concert, au théâtre, à l'opéra, à un dîner mondain, elle dort dans un palace 5 étoiles ou dans le manoir d'un ami. Un ex, te dira-t-elle, avec qui l'amour s'est fini. Elle est dans la splendeur des ailleurs. Parfois, elle te permet de la suivre. Elle t'engage à venir une nuit à l'Hôtel des Bains, une autre au Majestique, ou à l'Elisabethskaya, avec promenade à deux au bord de la Neva. Sa vie est une sarabande, et tu ne sais même pas valser. Tu n'es bon qu'à l'oral, et d'en envoyer des cartes postales où tu l'invites, où elle veut. Peut-être est-ce toi qui n'es pas là, dans une inertie, en deçà de sa sauvagerie, de son règne de nomade. Peut-être est-elle l'épiphanie de la grâce dans l'ordinaire de tes jours. Peut-être n'est-elle pour toi qu'une figure, un beau mirage. Mais tu aimes l'illusion plus que la vérité. Et elle est cette vérité insaisissable, même dans la possession. Ton Ariane, sans fil, et donc sans issue. Elle t'invite à rêver, et tu l'invites à vivre avec toi ce rêve. Votre histoire est plus belle que tous les contes qui finissent bien. On va entrer dans un tunnel, dit-elle dans son GSM.
Quel changement, monsieur Bical.
Eh oui, c'était un poème d'amour, ça, en quelque
c'était
sorte.
C'était un poème d'amour. Nous avons bien compris que votre histoire à vous est une histoire de création et que peut-être Christine passe-t-elle moins de temps dans les avions et les trains et Alors, comme le temps passe quand même et que je voudrais, vous nous avez parlé des splendeurs d'hier, peut-être qu'on peut parler des splendeurs de demain avec le programme des rencontres de cette année.
Oui.
Est-ce que vous voulez bien nous en parler, Yves ?
Absolument.
Ça donc, tombe bien.
Voilà. Donc cette année va être un peu particulière parce que nous ne pouvons pas, pour des tas de raisons techniques, faire l'exposition que nous faisons habituellement au centre Bogeneve. Et puis, du coup, on avait un thème qui était de la réalité à la fiction, qui était un thème intéressant. Mais du coup, on a décidé que si on ne faisait pas l'exposition, on basculait complètement le thème. Et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui chez nous, dans la région, ou en France, ou ailleurs, on a choisi de faire les rencontres littéraires sur le thème des enragés. Les enragés. Alors,
ah oui,
en prenant à chaque fois un auteur ancien sur qui on travaille, et puis la rencontre contemporaine qu'on fait toujours. Alors, je mets dans l'ordre là. On a pris un enragé de la philosophie, c'est Althusser. Un enragé de la politique, c'est Pasolini. Un enragé des droits de l'homme, Robespierre. Un enragé de la morale, Saint-Just. Un enragé de l'athéisme, le curé Mélier. Enfin, de l'athéisme et de l'anti-monarchie. Et puis, un enragé de l'écriture, Antonin Artaud. Au milieu de tout ça, il se trouve qu'on a une amie, Danielle Robert, qui publie ce mois-ci chez Actes Sud une nouvelle traduction de l'Enfer de Dante. Et c'est, semble-t-il, ça serait la première traduction qui respecte la prosodie de la poésie de Dante, la fameuse histoire des trois, des tertiaires, oui, etc. Oui. Bon. Donc, on fera aussi, au milieu de tout ça, une soirée sur l'Enfer de Dante au coin des rues de l'Enfer.
Ah oui, bien. Voilà. Et les petits diables seront présents.
Absolument, voilà. Donc l'idée, c'est ça. À chaque fois, on démarrera par une lecture, une vraie lecture qui prenne du temps. Mmh. Bon, là-dedans, tous ces auteurs, il y en a la moitié de qui j'ai déjà fait, moi, des lectures en spectacle, lectures publiques autrefois, donc ça peut retrouver. Et puis, à chaque fois, il y a deux, trois écrivains, ou philosophes, ou penseurs, qui viennent discuter sur l'œuvre de la personne. Et le tout sera, médiaté. Il y aura un médiateur, un bout à l'autre, qui sera Christian Tartin. Donc voilà le principe, et ce sera de juin à octobre.
De juin à octobre, donc là on s'étend sur un temps plus long.
C'est-à-dire on démarre en juin, et puis on fait toutes les trois semaines plus ou moins une soirée, voilà.
D'accord. Et Christine, votre espace à vous dans ce contexte-là, puisqu'il n'y a pas d'expo à ce moment-là.
Ah, moi je fais la petite main là.
La petite main, oui bien. Il en faut des petites mains,
absolument.
Je dois quand même dire honnêtement que quand elle monte des expositions au musée de l'Olivier à Volx, moi je fais la petite main pour elle, donc c'est.
Mais c'est un juste retour des choses.
Juste retour des choses. Oui, voilà, non, mais.
L'équilibre, tout est dans l'équilibre. Bon, enfin, vous ne le voyez pas, mais Christine opine de la tête, l'air de dire que bon, la masse de petites mains n'est peut-être pas tout à fait la même d'un côté et de l'autre. Bon, enfin, moi, je dois dire que je suis très séduite par le travail que vous faites à plusieurs niveaux. Parce que d'abord, je trouve que c'est beau. C'est vrai que c'est un travail, que ce soit les petits plaisirs, que ce soit les hors collections, ce que vous voulez. C'est vraiment un travail qui est sensible, qui est réfléchi, qui est complice, qui est en résonance, voilà, en résonance entre toujours le côté visuel et le côté que je dirais maintenant musical quasiment dans la. D'abord pour entendre lire Yves, c'est vrai que c'est assez. On est dans d'autres tons de basse, mais bon, c'est dit. Voilà, et pour conclure, on va simplement vous donner la parole pour dire quelle est la chose que vous souhaiteriez faire aujourd'hui, avec beaucoup d'utopie et d'irréalisme, on va dire. Qu'est-ce qu'il vous paraîtrait important de faire, de dire, de voir au coin de la rue de l'enfer?
Mais de pouvoir continuer, en fait. Moi, je pense que c'est ça. C'est que je n'ai pas envie d'arrêter ce travail. C'est notre vie. En fait, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps, quand on en parlait, que tous nos amis, mais je peux dire tous nos amis, on les connaît par la galerie, ou par le théâtre.
Par le travail.
Par le travail. Mmh. Et donc, si on arrête le travail, je pense qu'on n'aura plus de la même occasion, en fait, de rencontrer. Parce que c'est ça aussi, c'est rencontrer d'autres personnes. Donc, moi, je désire continuer.
Et Yves, alors ?
Moi, je voudrais.
Il ne veut pas continuer, il veut s'arrêter, prendre des vacances.
Moi, je voudrais prendre ma retraite, dormir.
Planter les poireaux.
Vaut mieux des poireaux que des asperges. Vous à moi après ce qu'on a lu tout à l'heure.
Non, toute ma vie, je disais, quand je serais bien vieux, je passerais mon temps à planter des poireaux. Maintenant que je suis bien vieux, j'ai une assistante qui plante les poireaux pour moi.
D'accord.
Et j'adore faire ça.
Et elle adore ça.
Uniquement les poireaux.
Ah non. Surtout les tomates.
En ce moment, nous sommes en train de planter. Parce que j'ai une de mes sœurs qui nous a donné un bestiau curieux. Ça s'appelle la chayotte. Vous connaissez ça?
Oui, bien sûr.
Un légume de la Réunion.
C'est un légume de la Réunion, mais qui est très, très prisé à Nice.
En français, c'est la Christophine, en fait. Hein. Ouais. Mais je voulais juste dire une phrase, moi, par rapport aux enragés, de préciser que les gens que nous avons invités pour venir parler ces soirées, c'est vraiment top, top, top. Niveau.
Ce sont des spécialistes, en fait.
Bon, par exemple, je donne un exemple. Avec Althusser, on aura Roger Stablet, qui est un des trois co-auteurs avec Althusser du fameux livre « Lire le Capital ». Avec Pasolini, on aura Jean Duflo, qui est le grand spécialiste français de Pasolini. La soirée du curé Mélier, finalement, c'est Serge Gervais qui vient. C'est un professeur de faculté, écrivain aussi belge, qui est actuellement en langue française un des grands, dans les jeunes, parce qu'il y a des très âgés. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a monté les rencontres. Voilà.
Mais de toute façon, chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez au fond des choses, soyons clairs.
On essaye.
Vous parliez de travail tout à l'heure. Bon, même si on a un travail passion, je veux dire, il y a quand même une exigence de qualité qui est indéniable.
C'est la raison pour laquelle on n'a pas fait d'exposition cet été, parce qu'on avait un problème qui nous empêchait de monter l'exposition.
Alors, on n'a pas du tout parlé de l'accès à ces rencontres. Comment ça se passe? On veut aller... Comment est-ce que ça se passe pratiquement? Parce que je suppose que le nombre de places est quand même relativement...
Il n'y en a jamais.
Non,
il
n'y a jamais eu trop de monde. Marche plein, non.
Ça va,
on tourne, je ne sais pas quoi, entre 30 et 50 personnes une fois à l'autre.
Et puis, s'il y a plus de monde, c'est très bien aussi, on y arrive.
Plus de monde, on
se tâche.
On se tâche, absolument, oui.
On s'assoit par terre. Hein,
oui. Même pas.
Bon, alors attention, si vous avez des rhumatismes, etc., prévoyez d'arriver en avance, sans ça, ils vous font asseoir par terre.
À part ça, au niveau, financier, en principe, on demande 5 euros de participation aux frais quand on vient. Mais si on se met dans les amis du coin de la rue de l'enfer, on ne paye rien. Voilà.
Où vas-tu? Ah ben voilà, les amis. Et donc, dans le
pardon.
Micro,
il va. Oui. Vous voulez que je répète? Donc je disais qu'en principe, on demande un droit d'entrée de 5 euros, qui n'est pas très élevé. Mais c'est un principe, parce que si on est inscrit parmi les amis du coin de la rue de l'Enfer, ça devient gratuit.
Si on est adhéré aux amis.
Si on est membre des amis. Voilà.
Oui, et puis en plus, c'est participer à un travail de création, c'est vous aider à continuer à avancer quand même.
Tout à fait.
Tout à fait. Eh bien,
je crois qu'on
il va être le temps de se quitter. On va se quitter peut-être en musique. Alors moi, je vous redonne donc les coordonnées de cette étonnante et très chouette maison d'édition, on va dire ça comme ça, mais qui est beaucoup plus qu'une maison d'édition. Donc c'est Artgo et au coin de la rue de l'Enfer. À Saint-Étienne-les-Orgues. Merci Christine, merci Yves.
Non, merci,
un grand merci à Odile qui a essayé de nous tenir face à nos micros, ce qui n'est pas toujours très simple.
Et d'empêcher Christine de taper sur la table.
Absolument. Et au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci.